Monsieur Triomphe Gaël Balamoto, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, la fabrication de ces charbons représente quoi aujourd'hui pour le défi environnemental et climatique?
Comme Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et vous savez, aujourd'hui, l'homme, à un moment donné, était ignorant. Et il a compris qu'il voulait transformer l'environnement selon sa vision, mais il a fait de façon erronée. Et comme il a fait de façon erronée, il a pris conscience. Il veut maintenant se donner à la protection de la nature. Et aujourd'hui, vous savez que notre pays est parmi les pays qui est en train de subir les conséquences du réchauffement climatique. Voilà pourquoi, étant jeune, nous nous sommes dit il va falloir mettre en place une structure qui va militer pour la protection de l'environnement. Alors, en fabriquant ce charbon, cela nous permet de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à l'employabilité des jeunes. Parce que là, si la ville est sale, en collectant les déchets, nous donnons le travail aux jeunes. Ceux qui travaillent avec nous ici, il faut leur donner un peu de perdien pour leur les motiver, quoi. Donc, eux, ils travaillent. Mais il n'y a pas que ça, parce que, comme je vous ai dit, il y a une autre équipe qui est actuellement adéquate pour former les jeunes sur les techniques de production de ce charbon. Donc, avec ça, les jeunes peuvent facilement entreprendre, mais aussi ceux qui travaillent déjà dans le truc, les charbonniers, on les forme sur ces techniques afin que eux, au lieu de toucher à la nature, ils peuvent facilement migrer vers la fabrication de charbon à l'aide des déchets qui ne demandent pas beaucoup de choses, contrairement à ce que nous faisons. Et aujourd'hui, vous savez que pour avoir un sac de charbon, il faut 6 kilos de bois. Et dans chaque arbre que nous coupons, il y a une quantité de dioxyde de carbone qui se trouve à l'intérieur. Et ce dioxyde de carbone est considéré comme le gaz à effet de serre qui est tellement dangereux. Et pour nous qui sommes des environnementalistes, pour nous qui militons pour la protection de l'environnement, nous sommes appelés à conscientiser les jeunes. C'est pourquoi mon grand frère dans la science, quelque chose que j'aime bien à dire, l'environnement semble avoir la fièvre, l'homme en est le virus et il faut placer toujours l'homme au centre pour trouver la solution à ces différentes maladies dont l'environnement en souffre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous voulons placer l'homme au centre de la recherche de solutions par rapport aux enjeux environnementaux que nous connaissons aujourd'hui.
Nous assistons aujourd'hui à un phénomène très inquiétant, celui du feu de brousse, mais aussi du réchauffement de la température, aussi bien que du retard dans la précipitation au niveau de Bangui. Est-ce que cela vous inquiète? Qu'est-ce que vous projetez au niveau de AG pour l'environnement?
Justement, vous savez que le phénomène de feu de brousse est en train de prendre une certaine ampleur dans la ville de Bangui et cela contribue à une forte déforestation. Parce que quand on met le feu dans la brousse, ça peut se propager à une grande vitesse et du coup, ça fait à ce qu'une grande étendue de la forêt peut disparaître. Et cette pratique, généralement, ce sont des agriculteurs ou ceux qui font la chasse qui le font. Et ils le font parce qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas les conséquences. Et nous, au niveau de Agir pour l'environnement, nous avons dit c'est au ministère des Eaux et Forêts et de l'Environnement de pouvoir se mettre ensemble et chercher à vulgariser le code forestier, parce que dans le code forestier, il y a des interdits. Il y a des zones auxquelles l'on ne devrait pas toucher à la forêt. Donc, c'est au ministère des Eaux et Forêts, mais aussi au ministère de l'Environnement de pouvoir vulgariser le code forestier. On peut même le faire à des différentes langues pour permettre à la population de connaître ce que c'est que le code forestier et quelle est la responsabilité de la population en ce qui concerne la protection de la forêt. Et nous avons même dit, si le ministère de l'Environnement ou le ministère des Eaux et Forêts n'est pas en mesure de faire ce grand travail, nous, Agir pour l'environnement, nous sommes là, ils peuvent nous accompagner afin qu'à notre niveau, nous puissions aussi sensibiliser la population. Et on ne doit pas attendre seulement le gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre le devant, nous sommes en train de sensibiliser. Nous le faisons par le canal de Radio de Keluka que nous avons eu à plusieurs fois travaillé avec eux et aussi par le canal de Guira FM dont nous avons un partenariat avec eux et nous passons tous les jours pour sensibiliser la population sur les risques de feux de brousse. Vous savez, déjà, quand on met le feu, on perd une grande quantité de la forêt. Ceux qui ont tendance à pratiquer, par exemple, l'agriculture dans cette zone sont obligés de quitter parce que le feu de brousse occasionne aussi l'infertilité du sol. Et ça les fait déplacer. Et quand ils se déplacent, ça provoque généralement aussi des conflits fonciers. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, à Lindao, qui quitte à Lindao pour aller à Bambari, pour aller faire, par exemple, l'agriculture là-bas, ceux qui sont à Lindao ne vont jamais accepter à ce qu'ils puissent venir le faire ici. Et ça crée généralement des conflits. Et pour éviter tout ça, nous sommes en train de travailler pour interpeller la population afin qu'elle puisse prendre conscience et se mettre aussi à travailler pour la protection de l'environnement.
Vous êtes une ONG. Est-ce que ce charbon que vous produisez, vous tirez de profit par rapport à ça?
Non. L'objectif pour agir pour l'environnement ici, c'est pas de pouvoir vendre ce charbon. Nous, notre objectif, c'est de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, nous produisons ça en grande quantité et nous les utilisons comme matière didactique. Quand nous partons, par exemple, pour sensibiliser, on distribue ça gratuitement à la population afin qu'elle l'utilise et comprenne l'avantage de ce charbon. Parce que déjà, je rappelle qu'avec 1 kilo de ce charbon, on peut faire 3 heures de cuisson. Cela n'a pas d'impact sur la santé. Cela n'a pas d'entorse sur l'environnement. Donc, ça a plusieurs avantages. Et quand nous donnons, vous voyez, quand la population elle-même utilise et connaît les avantages, c'est facile pour elle d'accepter qu'on puisse la former sur les techniques de production. Et comme ça, à son niveau, elle-même, elle peut maintenant travailler. Elle peut maintenant commencer à fabriquer ce charbon afin que ça puisse aussi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi, je vous ai dit, il y a une équipe de Agir pour l'environnement qui est actuellement adéquat, qui est en train de former les jeunes sur les techniques de production de charbon. Il y a une autre équipe qui est en Baïki, qui est en train de travailler. Et d'ici là, nous allons lancer aussi des séances de formation gratuites au niveau de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous allons le faire en partenariat avec le Centre des Martyrs, qui va mettre à notre disposition une salle de formation gratuite où nous allons former des jeunes qui veulent entreprendre, mais qui cherchent dans quel domaine ils peuvent facilement.
Aujourd'hui, vous avez un attachement de la communauté à s'intéresser à cette question.
Justement, voilà pourquoi nous sommes en train de le faire. Nous venons de finir une séance de formation sur l'entrepreneuriat et cette fois-ci, on veut maintenant former les jeunes sur les techniques de production de charbon. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les fabrications, par exemple, des fertilisants qui sont bio. Nous utilisons ces déchets, les mêmes déchets-là, pour fabriquer les fertilisants qui sont bio. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Nous allons former aussi les agriculteurs sur comment ils peuvent utiliser, c'est-à-dire les déchets pour fabriquer les fertilisants qui sont bio. Et ça leur permettra de pouvoir cultiver avec, sans pour autant créer de l'entorse sur la nature.
Mais quelle est aujourd'hui la contrepartie de l'État à porter ce que vous avez aujourd'hui comme vision, qui est aussi une contribution de la République centrafricaine dans la lutte contre le réchauffement climatique?
Déjà, nous sommes en train de chercher à entrer en partenariat avec le ministère de l'Environnement. C'est vrai que ça prend un peu du temps, mais nous espérons que nous pourrons avoir de l'écho. Donc, nous aurons un partenariat avec le ministère de l'Environnement qui, à son niveau, pourra nous accompagner, peut-être dans des besoins. Vous voyez déjà ici, nous sommes en train de rouler sur le fonds propre. Le site ici, c'est l'association qui paye sans pour autant dépendre à un partenaire. Et même notre équipe, nos deux équipes qui sont en déplacement, nous le faisons sur le fonds propre. Et nous voudrons à ce que s'il y a des partenaires qui veulent bien accompagner les jeunes, qui veulent bien nous accompagner, nous sommes disponibles à les accueillir. Comme ça, ils pourront mettre à notre disposition des outils qui peuvent nous faciliter les tâches. Vous voyez déjà la ville est trop sale. Quand vous passez au centre-ville, vous allez voir les déchets en désordre. Et nous, notre objectif, c'est d'assainir le milieu. Parce que quand on trouve les déchets et que ça stagne, à un moment donné, ça peut aussi contribuer à la prolifération des moustiques. Et ces moustiques apportent plusieurs maladies. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous ne voulons pas ce qu'on puisse arriver à un niveau où tout le monde tombe malade, on commence à avoir des enfants qui souffrent de malaria, tout ça. On veut pas. On veut maintenant assainir la ville, mais aussi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Monsieur Triomphe Gaël Balamoto, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.